Chapitre 18 Vie et mensonge d'Albus Dumbledore. Le soleil se levait. Le vaste espace incolore et immaculé du ciel s'étendait au-dessus de lui, indifférent à son existence, à ses souffrances. Harry s'assit à l'entrée de la tente et respira une longue bouffée d'air pur. Être simplement vivant et voir le soleil apparaître au-dessus d'une colline scintillante de neige aurait dû représenter pour lui le trésor le plus précieux au monde. Pourtant, il ne pouvait apprécier le spectacle. Ses sens étaient émoussés par la catastrophe que constituait la perte de sa baguette. Il contempla une vallée tapissée de neige, de lointaines cloches d'église carillonnant dans le silence étincelant. Sans s'en rendre compte, il enfonçait les doigts dans ses bras comme s'il s'efforçait de résister à une douleur physique. Il avait versé son sang plus souvent qu'il n'aurait su le dire. Un jour, il avait perdu tous les os de son bras droit. Ce voyage lui avait déjà valu des cicatrices sur la poitrine et sur l'avant-bras qui s'ajoutaient à celles de sa main et de son front, mais jamais encore jusqu'à cet instant, il ne s'était trouvé si implacablement affaibli, vulnérable et nu, comme si l'essentiel de son pouvoir magique lui avait été arraché. Il savait ce que dirait Hermione s'il lui en parlait. La baguette ne vaut que par le sorcier qui s'en sert. Mais elle aurait tort. Son cas était différent. Elle ne l'avait jamais senti pivoter toute seule dans sa main comme l'aiguille d'une boussole, ni vu projeter des flammes d'or vers son ennemi. Il avait perdu la protection des plumes de phénix jumelles, et c'était seulement au moment où elle n'était plus là qu'il se rendait compte à quel point il s'était toujours fié à sa baguette. Il sortit de sa poche ses morceaux brisés, et sans le regarder, les rangea dans la bourse de Hagrid, accrochée à son cou. La bourse était à présent trop pleine d'objets inutiles ou cassés pour en contenir davantage. Les mains de Harry effleurèrent le vieux vif d'or à travers la peau de Mok, et pendant un instant il dut combattre la tentation de le ressortir et de le jeter. Il était impénétrable, inefficace, sans aucun usage, comme tout ce que Dumbledore avait laissé derrière lui. Sa fureur contre celui-ci le submergea à nouveau comme une coulée de lave, le brûlant à l'intérieur, balayant tout autre sentiment. En désespoir de cause, il avait fini par se dire que les réponses à leurs questions se trouvaient à Godric's Hollow, et s'était convaincu qu'il devait s'y rendre, que c'était une étape d'un chemin secret tracé pour eux par Dumbledore. Mais il n'existait ni carte ni plan. Dumbledore les avait laissés tâtonner dans le noir, se débattre avec des horreurs sans nom, inimaginables. Rien ne leur avait été donné gratuitement. Ils n'avaient toujours pas l'épée, et à présent, Harry n'avait même plus de baguette. En plus, il avait laissé derrière lui la photo du voleur, et Voldemort, désormais, n'aurait aucun mal à découvrir qui il était. Voldemort disposait maintenant de toutes les informations. « Harry ?» Hermione semblait craindre qu'il lui jette un sort avec sa propre baguette. Le visage ruisselant de larmes, elle s'accroupit auprès de lui. Deux tasses de thé tremblaient dans ses mains. Coincée sous son bras, elle portait un objet volumineux. « Merci, » dit-il en prenant l'une des tasses.
« Ça t'ennuie pas que je te parle ?»«
Non, » répondit-il, soucieux de ne pas la blesser.
« Harry, tu voulais savoir qui était l'homme sur la photo ? Eh bien... « J'ai le livre. »
Timidement, elle lui posa sur les genoux un exemplaire flambant neuf de Vie et mensonge d'Albus Dumbledore.
« Où ? Comment ? » ?»« Il était dans le salon de Bathilda, sur un meuble. Il y avait ce mot qui dépassait de la couverture. »
Hermione lut à haute voix les quelques lignes tracées d'une écriture pointue, d'un vert acide.
« Cher Batty, merci de votre aide. » « Voici un exemplaire du livre. J'espère qu'il vous plaira. Tout ce que j'ai cité, vous l'avez dit, même si vous ne vous en souvenez pas. Rita !»«
Je pense qu'il a dû arriver pendant que la vraie Bathilda était encore vivante. Mais peut-être n'était-elle pas en état de le lire ?»«
Non, sans doute pas. » Harry regarda le visage de Dumbledore et éprouva une joie sauvage. Que Dumbledore l'ait voulu ou non, il allait savoir à présent tout ce qu'il n'avait pas jugé bon de lui révéler.
« Tu es toujours très en colère contre moi, n'est-ce pas ?» demanda Hermione.
Il leva la tête et vit de nouvelles larmes couler de ses yeux. Sa colère devait être visible sur son visage.
« Non,
répondit-il à voix basse. « Non, Hermione. Je sais que c'était un accident. Tu essayais de nous sortir de là vivants, et tu as été extraordinaire. Sans ton aide, je serais mort à l'heure qu'il est. » Il essaya de lui rendre son sourire larmoyant, puis reporta son attention sur le livre. Le dos de sa couverture était raide. De toute évidence, il n'avait jamais été ouvert. Il feuilleta les pages, cherchant les photos. Presque tout de suite, il trouva celle qui l'intéressait, le jeune Dumbledore et son séduisant compagnon, riant de bon cœur à une plaisanterie depuis longtemps oubliée. Harry lut la légende. Albus Dumbledore, peu après la mort de sa mère, en compagnie de son ami Gellert Grindelwald. À la lecture du dernier mot, Harry resta un long moment bouche bée. Grindelwald, son ami Grindelwald. Il jeta un regard en biais à Hermione qui contempla ce nom comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Lentement, elle leva la tête vers lui. Grindelwald ? Ignorant les autres photos, Harry chercha dans les pages voisines les endroits où le nom fatal réapparaissait. Il le découvrit bientôt et lut avidement le passage, mais il se sentit un peu perdu. Il fallait revenir plus loin en arrière pour comprendre, et il finit par se retrouver au début d'un chapitre intitulé « Le plus grand bien ». Hermione et lui lurent ensemble.
Approchant maintenant de son 18e anniversaire, Dumbledore quitta Poudlard, auréolé de gloire. Préfet en chef, lauréat du prix Barnabus Finclay, d'aptitude exceptionnelle au sortilège, représentant de la jeunesse britannique auprès du Magen Magot, médaille d'or pour contribution fondamentale à la Conférence internationale d'alchimie du Caire. Dumbledore avait ensuite l'intention d'entreprendre un tour du monde en compagnie d'Elphias Dodge, surnommé Haleine de Chien, le comparse sot mais dévoué qu'il s'était choisi à l'école. Les deux jeunes hommes avaient pris une chambre au Chaudron Baveur, à Londres, se préparant à partir pour la Grèce le lendemain matin, lorsqu'un hibou apporta un message qui annonçait la mort de la mère de Dumbledore. « Dodge, dite Haleine de Chien, qui a refusé d'être interviewé pour ce livre, a livré au public sa propre version très sentimentale de ce qui s'est passé ensuite. » Il présente la mort de Kendra comme un coup tragique et la décision de Dumbledore d'abandonner son expédition comme un noble sacrifice. Il est vrai que Dumbledore retourna aussitôt à Godric's Hollow, prétendument pour prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. Mais quel soin leur prodigua-t-il véritablement ? C'était un cinglé, cet Aberforth, déclare Enid Smeck, dont la famille habitait à l'époque un peu en dehors de Godric's Hollow. Il était déchaîné. Bien sûr, avec son père et sa mère, qui n'étaient plus là, on aurait pu avoir de la peine pour lui, mais il n'arrêtait pas de me jeter des crottes de chèvre à la figure. Je ne crois pas qu'Albus s'occupait beaucoup de lui. D'ailleurs, je ne les ai jamais vus ensemble. Alors, que faisait Dumbledore s'il n'essayait pas de réconforter son jeune frère dissipé ? La réponse, semble-t-il, c'est qu'il veillait à maintenir sa sœur séquestrée. Car bien que sa première geôlière fût morte, il n'y eut aucun changement dans la situation pitoyable d'Ariana Dumbledore. Son existence même continuait de n'être connue, en dehors de la famille, que de quelques personnes qui, comme Dodge, alias Haleine de Chien, croyaient volontiers à l'histoire de la santé fragile. Une autre amie, tout aussi satisfaite de cette version des faits, était Bathilda Tour-de-Sac, la célèbre historienne de la magie qui habite depuis de nombreuses années à Godric's Hollow. Kendra, bien sûr, avait rabroué Bathilda lorsque celle-ci avait essayé de souhaiter la bienvenue à la famille. Quelques années plus tard, cependant, le célèbre auteur envoya à Poudlard un hibou destiné à Albus, car elle avait été favorablement impressionnée par son article sur la transformation interespèce, publié dans le mensuel de la Métamorphose. Ce premier contact l'amena à faire connaissance avec la famille Dumbledore dans son entier. Au moment de la mort de Kendra, Bathilda était la seule habitante de Godric's Hollow à qui la mère de Dumbledore adressait la parole. Malheureusement, la brillante intelligence que Bathilda a manifestée au cours de sa vie se trouve à présent quelque peu diminuée. Le feu est allumé, mais le chaudron est vide, comme me l'a confié Ivor Dillonsby ou, dans les termes plus terre à terre, d'Enid Smeck, elle n'a pas plus de tête qu'une crotte d'écureuil. Néanmoins, une longue expérience et une technique éprouvée du reportage m'ont permis d'extraire, telles des pépites, suffisamment de faits réels pour reconstituer toute cette scandaleuse histoire. Alors, comme tout le monde dans les milieux de la sorcellerie, Bathilda attribue la mort prématurée de Kendra à un sortilège qui se serait retourné contre elle. Une version qu'Albus et Abel Forte répétèrent par la suite. Bathilda se fait également l'écho de l'affirmation de la famille selon laquelle Arianna aurait été fragile et délicate. Sur un point, cependant, Bathilda m'a récompensé des efforts que j'ai déployés pour me procurer du Veritaserum. Car elle, et elle seule, connaît toute l'histoire du secret le mieux gardé de la vie d'Albus Dumbledore. Révélé aujourd'hui pour la première fois, il remet en cause tout ce que ses admirateurs croyaient à son sujet. Sa haine supposée de la magie noire, son opposition à l'oppression des moldus, et même son dévouement envers sa propre famille. L'été même où Dumbledore rentrait à Godric's Hollow, désormais orphelin et chef de famille, Bathilda Tour-de-Sac acceptait d'héberger chez elle son petit-neveu, Gellert Grindelwald. Le nom de Grindelwald est à juste titre célèbre sur la liste des plus dangereux sorciers de tous les temps. Il aurait mérité de figurer à la première place si une génération plus tard, vous savez qui, n'était venu le détrôner. Mais comme Grindelwald n'a jamais étendu sa terreur jusqu'à la Grande-Bretagne, les détails de son accession au pouvoir ne sont pas très connus dans notre pays. Élève de Durmstrang, où il était déjà réputé pour sa regrettable tolérance de la magie noire, Grindelwald se montra aussi précocement brillant que Dumbledore. Mais au lieu de mettre à profit ses talents pour obtenir prise et récompense, Gellert Grindelwald se consacra à d'autres ambitions. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 16 ans, les autorités de Durmstrang elles-mêmes estimèrent qu'elles ne pouvaient plus fermer les yeux sur ses expériences douteuses, et il fut renvoyé de l'école. Jusqu'à maintenant, tout ce que l'on savait de ce que Grindelwald avait fait par la suite, c'était qu'il avait voyagé à l'étranger pendant quelques mois. On peut aujourd'hui révéler que Grindelwald avait décidé de se rendre chez sa grand-tante à Godric's Hollow, et que, une fois là-bas, si choquant que cela puisse paraître à certains, il noua une amitié étroite avec Albus Dumbledore.
« Il me semblait un charmant garçon, »
bredouille Bathilda.
« Quoi qu'il ait fait par la suite, bien entendu, je l'ai présenté à ce pauvre Albus qui n'avait pas beaucoup d'amis de son âge. Les deux garçons ont tout de suite sympathisé. »
On ne saurait en douter. Bathilda me montre en effet une lettre qu'elle a gardée, envoyée par Albus Dumbledore à Gellert Grindelwald en plein milieu de la nuit.
« Oui, après qu'ils eurent passé toute la journée à discuter, vous pensez, deux jeunes gens si brillants, ils s'entendaient comme chaudron en foire. Oh, j'entendais parfois un hibou tapoter à la fenêtre de la chambre de Gellert pour lui apporter une lettre d'Albus, mais... Il venait d'avoir une idée et voulait en faire part immédiatement à Gellert.
Et quelles idées, si choquantes qu'elles puissent paraître au fond d'Albus Dumbledore, voici les pensées qu'avait leur héros à 17 ans, telles qu'il les exposait à son meilleur ami de fraîche date. Une reproduction de la lettre originale se trouve en page 463. Gellert. « Ce que tu disais sur le fait que la domination des sorciers s'exerce pour le propre bien des moldus, voilà le sujet crucial. Oui, un pouvoir nous a été accordé, et, oui, ce pouvoir nous donne le droit de gouverner, mais il nous donne également des responsabilités à l'égard des gouvernés. Nous devons insister sur ce point, car il sera la première pierre sur laquelle nous pourrons bâtir tout le reste. Chaque fois que nous serons en désaccord, comme cela arrivera sûrement, cette notion fondamentale devra représenter la base de toutes nos discussions. Nous prenons le pouvoir pour le plus grand bien. Il en découle que lorsque nous nous heurtons à une résistance, nous ne devons utiliser que la force nécessaire et pas plus. Ce fut ton erreur à Durmstrang. Mais je ne m'en plains pas, car si tu n'avais pas été renvoyé, nous ne nous serions jamais rencontrés. Albus. Quelle que soit la stupéfaction, la consternation qu'elle puisse provoquer chez ses nombreux admirateurs, Cette lettre n'en apporte pas moins la preuve qu'Albus Dumbledore a autrefois rêvé de mettre à bas le code du secret magique et d'établir la domination des sorciers sur les moldus. Quel coup pour ceux qui ont toujours présenté Dumbledore comme le plus grand défenseur des némoldus. Combien creux nous semblent à présent tous ces discours sur les droits des moldus à la lumière de ce document accablant. Combien méprisable nous apparaît Albus Dumbledore occupé à manigancer son accession au pouvoir alors qu'il aurait dû pleurer la mort de sa mère et prendre soin de sa petite sœur. Ceux qui sont décidés à maintenir Dumbledore sur son piédestal branlant glapiront sans aucun doute que, après tout, il n'a jamais mis ses projets à exécution, qu'il a dû changer de conviction, qu'il est revenu à la raison, mais la vérité semble encore plus scandaleuse. Leur nouvelle et grande amitié avait commencé depuis à peine 2 mois, lorsque Dumbledore et Grindelwald se séparèrent. Ils ne devaient plus se revoir jusqu'au jour où ils se retrouvèrent pour leur duel légendaire. Pour plus de détails, voir chapitre 22. Quelle a été la cause de cette rupture brutale? Dumbledore était-il revenu à de meilleurs sentiments? Avait-il dit à Grindelwald qu'il ne voulait plus avoir aucune part dans ses projets? Hélas, non.
« Je crois que c'est la mort de la petite Ariana qui a tout déclenché, »
déclare Mathilda.
« Ce fut un horrible choc. Gellert se trouvait dans leur maison quand c'est arrivé, et il est revenu chez moi dans tous ses états. Il m'a dit qu'il voulait partir dès le lendemain. Il était affreusement éprouvé. Oh, vous savez, alors je lui ai arrangé un départ par porte au loin, je ne l'ai jamais plus revu. »
Albus a été bouleversé par la mort d'Ariana. C'était tellement affreux pour les deux frères. Ils avaient perdu toute leur famille. Il n'y avait plus qu'eux. Pas étonnant qu'ils aient eu les nerfs à vif. Abelfort rejetait la responsabilité sur Albus. Comprenez-vous? Comme c'est souvent le cas, en d'aussi terribles circonstances. Mais Abelfort disait toujours des choses un peu folles, le pauvre garçon. Enfin, quand même, casser le nez d'Albus pendant l'enterrement, ça n'était pas très convenable.
Kendra aurait été anéantie si elle avait vu ses deux fils se battre comme ça sur le corps de sa fille. Dommage que Gellert n'ait pas pu rester pour l'enterrement. Au moins, cela aurait été un réconfort pour Albus.
L'horrible bagarre à côté du cercueil, connue seulement des rares personnes qui assistaient aux funérailles d'Ariana Dumbledore, soulève plusieurs questions. Pourquoi exactement Abelfort Dumbledore tenait-il Albus pour responsable de la mort de sa sœur? Était-ce, comme le prétend Batty, un simple débordement de chagrin? Ou bien sa fureur pouvait-elle avoir une autre raison plus concrète? Grindelwald, renvoyé de Durmstrang pour avoir failli provoquer la mort de camarades de classe qu'il avait attaqué, a fui le pays quelques heures après la mort de la jeune fille. Et Albus, par peur ou par honte, ne l'a jamais revu. Jusqu'au jour où il y fut contraint à la demande instante du monde de la sorcellerie. Ni Dumbledore, ni Grindelwald ne semblent avoir jamais évoqué par la suite cette brève amitié de jeunesse. Il ne fait cependant aucun doute que Dumbledore a attendu 5 années de troubles, de morts, de disparitions, avant de se décider enfin à attaquer Gellert Grindelwald. Était-ce un reste d'affection pour l'homme lui-même? Ou la crainte de voir révéler leur ancienne amitié qui a fait hésiter Dumbledore? Est-ce à contre-cœur que Dumbledore a résolu de capturer l'homme qu'il avait été autrefois si enchanté de rencontrer? Et comment la mystérieuse Ariana est-elle morte? A-t-elle été la victime accidentelle d'un quelconque rituel de magie noire? A-t-elle surpris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir à un moment où les deux hommes étaient occupés à s'entraîner pour tenter d'atteindre la gloire et la domination? Est-il possible qu'Ariana ait été la première personne à mourir pour le plus grand bien?
Le chapitre s'arrêtait là. Harry leva les yeux. Hermione était arrivée avant lui au bas de la page. Elle lui prit le livre des mains, l'air un peu alarmé devant l'expression de son visage, et le referma sans le regarder comme si elle s'empressait de cacher quelque chose d'indécent.
« Harry !»
Mais il hocha la tête en signe de dénégation. Une certitude intérieure venait de s'effondrer en lui. C'était exactement ce qu'il avait éprouvé après le départ de Ron. Il avait eu confiance en Dumbledore. Il avait été convaincu qu'il était l'incarnation du bien et de la sagesse. Tout cela partait en cendres. Que pouvait-il encore perdre? Ron, Dumbledore, la baguette à la plume de Phénix.
Harry!
Hermione semblait avoir deviné ses pensées.
Écoute-moi, ce n'est pas une lecture très agréable.
On peut dire ça comme ça.
Mais n'oublie pas, Harry, que le livre a été écrit par Rita Skeeter.
Tu as lu la lettre à Grindelwald, non?
Oui, je l'ai lu.
Elle hésita, la mine bouleversée, la tasse de thé au creux de ses mains froides.
Je crois que c'est le pire passage. Je sais que pour Bathilda, il ne s'agissait que de conversations entre deux amis, mais pour le plus grand bien est devenu le slogan de Grindelwald, sa justification de toutes les atrocités qu'il a commises par la suite. Et d'après ce qui est écrit là, il semble que ce soit Dumbledore qui lui ait donné l'idée. On dit que « pour le plus grand bien » était même gravé à l'entrée de Nurmengard.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Nurmengard?
La prison que Grindelwald a fait construire pour enfermer ses opposants. Il y a fini lui-même quand Dumbledore l'a capturé. En tout cas, c'est terrible de penser que les idées de Dumbledore ont pu aider Grindelwald à arriver au pouvoir. Mais d'un autre côté, même Rita ne peut prétendre qu'ils se soient connus plus de quelques mois au cours d'un été où ils étaient tous les deux vraiment jeunes.
Et « je pensais bien que tu dirais ça », l'interrompit Harry. Il ne voulait pas que sa colère se retourne contre elle, mais il avait du mal à parler d'une voix calme. « Je pensais bien que tu dirais « ils étaient jeunes ». Mais ils avaient le même âge que nous aujourd'hui. Et nous, nous sommes là à risquer nos vies pour combattre les forces du mal, alors que lui, il passait ses journées avec son meilleur ami à comploter leur prise de pouvoir sur les Moldus. Harry ne parviendrait pas à contrôler sa fureur plus longtemps. Il se leva et se mit à marcher de long en large, s'efforçant de se défouler physiquement.
« Je n'essaye pas de défendre ce que Dumbledore a écrit, » assura Hermione. « Toutes ces idioties sur le droit de gouverner, c'est la même chose que la magie et puissance. Mais Harry, il faut comprendre que sa mère venait de mourir, il était coincé tout seul chez lui. »
« Tout seul ? Il n'était pas tout seul. Il était avec son frère et sa sœur, sa craquemolle de sœur, qu'il gardait enfermée. »
« Je n'y crois pas, » dit Hermione.
Elle se leva à son tour.
« J'ignore ce qui n'allait pas chez elle, mais je ne crois pas que c'était une craquemolle. Le Dumbledore que nous connaissions n'aurait jamais, jamais permis. »«
Le Dumbledore que nous pensions connaître n'aurait jamais voulu vaincre les Moldus par la force !»
hurla Harry, sa voix résonnant au sommet désert de la colline. Des merles s'envolèrent, lançant des cris et tournoyant dans le ciel d'un gris nacré.
« Il a changé, Harry. Il a changé. C'est aussi simple que cela. Peut-être qu'il croyait à ces choses-là quand il avait 17 ans, mais il a consacré tout le reste de sa vie à combattre les forces du mal. Dumbledore a été celui qui a arrêté Grindelwald. Celui qui a toujours voté pour la protection des Moldus et pour les droits des sorciers nés Moldus. Celui qui s'est battu contre tu sais qui depuis le début et qui est mort en essayant de le terrasser. »
Le livre de Rita était posé entre eux sur le sol et ils voyaient Dumbledore leur sourire avec tristesse.
« Harry, je suis désolé, mais je crois que la véritable raison de ta colère contre Dumbledore c'est qu'il ne t'a jamais rien raconté de tout cela lui-même.
« Peut-être !» s'écria Harry. Il leva les bras et les croisa au-dessus de sa tête, ne sachant pas très bien s'il essayait de contenir sa colère ou de se protéger contre le poids de ses propres désillusions.
« Tu vois bien ce qu'il m'a demandé, Hermione. Risque ta vie, Harry, encore et encore, et n'attends pas de moi que je te donne toutes les explications. Contente-toi d'avoir en moi une confiance aveugle. Sois persuadé que je sais ce que je fais. Aie confiance en moi, même si moi, je n'ai pas confiance en toi. Jamais la vérité tout entière, jamais !»
La tension brisa sa voix et ils restèrent debout face à face, à se regarder dans le vaste espace vide et blanc. Sous le ciel immense, Harry avait l'impression qu'il n'avait pas plus d'importance que des insectes.
« Il t'aimait beaucoup, » murmura Hermione. « Je sais qu'il t'aimait beaucoup. »
Harry laissa retomber ses bras. « J'ignore qui il aimait, Hermione, mais sûrement pas moi. Le gâchis dans lequel il m'a abandonné, on ne peut pas appeler ça de l'amour. Il a partagé ses véritables pensées avec Gellert Grindelwald, infiniment plus qu'il ne l'a jamais fait avec moi. Harry ramassa la baguette d'Hermione qu'il avait laissée tomber dans la neige et revint s'asseoir à l'entrée de la tente. « Merci pour le thé. Je vais finir mon tour de garde. Retourne te mettre au chaud. » Elle hésita, mais comprit qu'il lui donnait congé. Elle reprit le livre et revint dans la tente. En passant devant lui, elle lui effleura les cheveux d'un geste léger de la main. Il ferma les yeux à ce contact et s'en voulut de souhaiter qu'elle ait dit la vérité, que Dumbledore avait réellement de l'affection pour lui.